vendredi 9 décembre 2011. Vous écoutez La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89A. Bonsoir à tous et à toutes, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour jaser avec vous, évidemment, de bande dessinée, mais également d'illustration, d'animation, et tout particulièrement cette semaine, on va parler de fanzine. On s'y est pas encore consacré depuis le début de la saison. On dirait qu'on attendait peut-être une bonne excuse pour le faire, et cette bonne excuse, elle arrive cette fin de semaine avec le salon Nouveau Genre 6, les 10 et 11 décembre à l'église Saint-Jean-Baptiste. Le salon Nouveau Genre, essentiellement, c'est un salon où vous retrouvez plein d'éléments, que ce soit lié au métier d'art, aux arts visuels, que ce soit lié à l'illustration, à la musique et également aux fanzines. Et on a demandé quelques petites suggestions à notre collaborateur Olivier Bérère-Vidal pour voir qui serait intéressant de vous présenter en amont de ce salon. Et finalement, notre choix et notre réflexion s'est orienté vers deux groupes de créateurs de fanzines. Tout d'abord, il y aura Sébo Descabeau, donc Marie-Pierre April et Marie-André Godin qui seront de passage pour présenter leur travail. Et également, il y aura Véronique Garneau-Allard, responsable notamment des proverbes faibles, qui viendra faire un tour à l'émission. Alors ça, c'est le segment fanzine pour cette semaine. Bien entendu, des collaborateurs également qui se joignent à nous comme à chaque semaine. Et vous le savez sûrement, il y a un petit événement fort sympathique qui est arrivé en salle, un film. C'est un événement en soi. Mais en plus, là, on parle de Steven Spielberg et surtout, dans le contexte de l'émission, on parle de Tintin. Thomas-Louis Côté a vu le film, nous reviendra sur le film, mais également nous parlera de la série globalement, quelques réflexions autour de Tintin. Et autour également de la sortie de ce long métrage. Également, dans quelques instants, il y aura Stéphane Gravel qui sera avec nous en route vers le temps des fêtes. Quelques suggestions de beaux livres. Alors, c'est le menu pour aujourd'hui à La Vie en BD. Et parallèlement, vous avez peut-être suivi aussi ça dans l'actualité. Angoulême 2012, la sélection officielle qui a été annoncée, toujours un événement, année après année, et toujours un peu... stressant pour les différents auteurs, donc de voir quels albums seront sélectionnés. Si leur album sera sélectionné de plus en plus tranquillement, on voit des Québécois qui participent au festival et qui également se retrouvent dans la sélection officielle de l'événement. Et cette année, il y a deux auteurs édités au Québec qui s'y retrouvent. Alors, on les salue au passage dans la catégorie Jeunesse, Paul Auparc de Michel Rabagliati à la Pastèque. Également dans la sélection Polar, il y a Yves Rodier et Frédéric Antoine avec Les aventures de El Spectro, tome 1, donc au Lombard. Et également, si on élargit aux auteurs du Québec, il y a également Guy Delisle avec ses chroniques de Jérusalem qui se retrouvent dans la sélection officielle. Bien entendu, on parle à peu près de 80 albums qui sont sélectionnés. Alors, on n'aura pas le temps de les énumérer tous ici. Je vous réfère plutôt au blog de l'émission, lavieenbd.wordpress.com. L'ensemble des albums y sont répertoriés dedans l'article à cet effet. Alors, allez y faire un petit tour. On s'en va en pause musicale et la sélection musicale pour cette semaine, on va essayer d'aller chercher plutôt dans le, disons, électro-ambiant rétro avec un album de la formation L'Orange, une formation de Caroline du Nord. Et c'est un album qui s'appelle Old School, qui est inspiré de Billie Holiday. Alors, je vous laisse un premier extrait pour vous faire une idée d'à quoi ça ressemble et on se retrouve dans quelques instants. Yeah. mention peut-être au passage, bande dessinée qui est sortie cette semaine, en fait, qui est arrivée chez moi avant hier. Fort sympathique, toujours agréable de les voir arriver. Je parle ici des derniers volumes de Torgal. C'est vraiment dans l'esprit un peu BD rétro. Je veux dire, c'est une série qu'on a presque vu grandir, une série développée par Jean Van Hamme et une série qui, au fil des années, avec la passation des armes aussi vers d'autres auteurs, qui finalement n'a pas perdu de la force qu'elle avait dans le passé. Peut-être surprenamment, mais c'est loin d'être une mauvaise nouvelle. Là, on s'entend là-dessus de manière claire, nette et précise. Alors, deux albums qui nous sont arrivés. Tout d'abord, il y a le Bateau Sabre, le tome 33 de la série principale. La série principale, si vous la suiviez, qui oscillait depuis quelques albums vers le fils de Torgal, Jolan. Ça donnait des albums peut-être un peu moins solides, en fait. Donnait l'impression peut-être que c'était Torgal qui était vraiment bien placé pour tenir le cœur de cette série-là. Et depuis le dernier album, on réintègre justement ce personnage qu'on avait mis de côté quelques albums. Le problème, par contre, avec le Bateau Sabre, c'est que ça semble justement être un élément charnière entre ces deux univers-là qui sont parallèles. Donc, on retrouve des scènes du fils à l'intérieur de l'aventure du père, mais par contre, elles semblent peut-être un peu accessoires, un peu une parenthèse pour dire, bon, regardez, on n'a pas oublié ce personnage-là, mais maintenant, on a envie quand même d'explorer l'univers d'un autre personnage. Alors peut-être un peu négatif pour ça, un peu négatif aussi sur l'idée qu'il n'y a quand même pas énormément de choses qui se passent dans cet album de Torgal, mais reste que l'ambiance est là, le dessin est là, l'esprit est là, alors ça fonctionne quand même très bien, surtout pour ceux qui apprécient justement l'univers de ce héros viking. Alors ça, c'est pour Torgal, le Bateau Sabre. Donc, la suite de la série. Ce qui est intéressant, c'est, bon, il y a deux albums qui arrivent un peu en même temps. L'autre, c'est un univers, en fait, vous savez que depuis quelques temps, l'univers de Torgal, un peu comme avec d'autres séries de Van Hamme, on pense à 13, qui a été ouvert à d'autres personnages et personnages secondaires qui avaient été introduits dans certains des opus de la série, et notamment avec Chris de Valnard, il y a quelques années, qui avait eu droit à un premier tome. Maintenant, c'est la fille de Torgal, Louve, qui est un personnage quand même assez énigmatique, qui autour duquel il y avait quand même quelques questions qui pouvaient être soulevées, qu'on a introduit justement à l'intérieur de ce nouvel opus, premier tome qui s'appelle Raissa, dans lequel on place un peu aussi l'univers et les éléments qui entourent la vie de cette jeune fille. Donc, on la découvre, elle sait parler avec les loups, avec les animaux en général, et elle est dans son village à l'attente de son père, et elle va évidemment avoir quelques aventures en périphérie donc de ce village. Ça donne quelque chose d'assez intéressant, fait peut-être un peu lent au début, mais quand ça commence à démarrer, ça démarre bien, et la conclusion nous donne envie d'aller chercher justement le deuxième tome. Il y aura sûrement une attente envers celui-là, évidemment. Et donc, ça donne un spin-off, si vous me permettez l'anglicisme, qui est assez réussi. Et d'ailleurs, en fait, autant pour Chris de Van Hamme que pour Louvre, on nous annonce d'ores et déjà des deuxièmes tomes qui s'en viennent là, très prochainement. Alors, pour ceux qui aiment l'univers de Torgal, là, donc le Bateau Sabre ou les mondes de Torgal avec Raissa, peuvent être intéressants pour ceux qui ont envie également de retourner dans ces lectures qui ont peut-être ponctué leur adolescence, et ça peut aussi être fort agréable comme détour. Alors voilà, donc petite suggestion au passage. On retourne en musique avec L'Orange et on poursuit La Vie en BD tout de suite après.
You've been supporting her all this time? I suppose you're wondering. So is she. She's getting to be a big girl now, Father. She's beginning to think I'm no good. I want to put her in your care before she finds out she's right.
Dad, Dad, you can't leave her!
I must, dear. Goodbye, my plum.
Then you'll take her, Father. She can live here at the school.
I think it will be arranged.
It's all about you.
And
vous êtes toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous pour La vie en BD. Toujours musique courtoisie de L'Orange. Extrait de l'album Old School. L'extrait qu'on vient d'entendre s'appelle The Good Shepherd. Et ben là-dessus, on se lance donc dans les rencontres qu'on vous a promis autour du Salon Nouveau Genre 6, donc une émission qui sera en bonne partie consacrée à l'univers du fanzine, de la publication indépendante cette semaine. Et ben pour lancer le bal, nous sommes en compagnie de l'auteur Véronique Garneau-Allard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Véronique, qui nous arrive avec plusieurs fanzines, et notamment fait qu'on connaît peut-être, que certains connaissent peut-être avec l'univers des proverbes faibles. T'en es au troisième volume de cette série-là.
Ouais.
Et peut-être pour établir, peut-être commençons avec justement les proverbes. Qu'est-ce que c'est un proverbe faible?
Ben ça dépend, parce que ça peut, tu sais, j'appelle le fanzine proverbe faible, mais ça peut être des proverbes forts des fois. Ça peut être des fois juste une phrase, puis mais faible, j'aime ça le voir un peu comme un bémol, genre en musique, tu sais, une inclination, quelque chose qui twiste la phrase. Fait que c'est sûr qu'il y a le mot proverbe dedans, fait que des fois je twiste des vrais proverbes, genre dans le doute obstine-toi à la place de dans le doute abstiens-toi, ou des trucs de même, puis c'est ça.
Puis on y va avec aussi des grandes vérités. En fait, peut-être je laisse justement quelques exemples aux auditeurs, notamment en matière de réinventer les proverbes. Rien ne sert de courir, ça sert à rien.
Ouais.
Ou encore la température, c'est elle qui décide. Une grande vérité aujourd'hui, notamment. D'où viennent un peu l'idée des phrases comme ça? Est-ce qu'on s'installe là, on essaie de réfléchir, ou c'est des flashs qu'on note, on a un petit calepin?
Non, c'est vraiment des flashs, là. Puis tu sais, des fois, souvent, tu sais, les prophètes de salle de bain, c'est de même que j'ai appelé ça le collectif, ça. C'est parti quand j'avais comme 14 ans avec un ami. Puis un autre ami, puis on avait parti ça, l'idée des proverbes faibles, puis on avait sorti des phrases, puis tu sais, j'avais écrit un petit cahier, puis comme 10 ans plus tard, j'avais retrouvé ce petit cahier-là, puis là, j'étais là, pouah, c'est donc ben hot! Fait que j'avais full trippé là-dessus, puis une fois de temps en temps, je faisais une phrase, ou quelqu'un disait de quoi, puis là, je disais, c'est bon, ça? Puis là, je rentrais chez nous, je l'écrivais, je me laisse tout le temps des petits papiers, puis j'écris ça partout, puis le soir, je retranscris ceux que j'aime le plus. Tu sais, même ceux que j'aime moins, OK, j'ai transcrit, puis à un moment donné, je fais un tri, tu sais, quand je fais un fanzine, là, je fais un tri, quel que j'aime le plus, quel qui fit ensemble, dans quel ordre j'aimais, tu sais. Mm-hmm. Puis, mais souvent, c'est pas nécessairement moi, là, ça peut être comme...
Si on va prendre un café, j'ai une phrase qui est éclairante, ben, tu peux la noter puis la récupérer à ta sauce.
Exactement, mais des fois, c'est juste qu'on joue, tu sais, on parle, puis on joue avec les mots, puis là, à un moment donné, on finit par faire des découvertes, puis là, tout le monde est crampé, puis là, je le prends en note, tu sais, c'est ça. C'est de même, ça marche.
Parce qu'en même temps, en fait, bien faire court, parce qu'on parle d'une forme de proverbe, donc c'est pas des phrasons, c'est quelques mots, c'est pratiquement des tweets, là, à la limite. Ouais. Là,
c'est ça, j'étais là avant Facebook. Non, mais
c'est l'art de faire bref. C'est l'art de faire bref aussi.
Aussi, ouais. Parce que, tu sais, mettons, tu prends « Personne n'est parfait », qui est connu par tout le monde. Au début, ma phrase, c'était « Personne n'est parfait, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres ». Puis quand je suis arrivée pour faire le fanzine, j'étais là « Ouais, mais est-ce que c'est pas nécessaire d'écrire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres ou il y en a qui sont pires que d'autres ?» On sent Christ, tu sais, le point, c'est « Personne n'est parfait ». Fait que souvent, je vais partir avec une longue phrase, puis finalement, je vais la réduire, jusqu'à temps que j'arrive à... la vérité ou le noyau, ou tu sais, qu'est-ce qui est important finalement là-dedans. Là.
Oui, puis ça permet de mettre les choses en place, comme quand tu dis par exemple, Gérard Depardieu était Gérard Depardieu, ce que Rémi Girard était Rémi Girard. Mais, en même temps, ça dit tout, on n'a pas besoin d'en dire plus. Là.
Ça va à l'essentiel.
Exactement. Et donc, c'est un travail de tri au départ, en fait, tu as tes calepins, tu les notes, puis après ça, c'est écrit à la machine aussi pour avoir le côté
ouais,
esthétique.
J'ai une vieille dactylo puis que ma mère m'a donnée, puis ouais, j'écris ça avec ce dactylo-là, puis je photocopie ça, puis je trouve que ça fait beau, là.
Et qu'est-ce qui fait, justement, on décrit un peu la force d'un bon proverbe faible, justement, si on avait à dire aux gens...
décrit la faiblesse,
oui, exactement.
D'un bon proverbe faible. Ben, ils s'en viennent fort, pas mal, mes proverbes. Fait que...
Mais ils sont forts dans leur faiblesse.
Absolument. Ça dépend, mais... Ça dépend. C'est quoi ta question?
En fait, j'allais dire, est-ce que des fois, tu regardes un truc et tu dis, mon Dieu, c'est trop fort pour être faible? Ou...
Au début, je me reste. Tu sais, je faisais plus face à ce problème-là. Là, j'étais comme, oh, c'est ben trop bon pour être un proverbe faible. T'sais. Puis à un moment donné, je me suis dit, coudonc, tu veux-tu te faire chier avec des phrases qui sont plates, toutes faibles, toutes plates, toutes qui veulent rien dire? Je m'en fous à quelque part. Moi, je veux m'amuser. Fait que. S'il est trop fort, ben c'est pas grave, on l'embarque. Puis s'il est trop faible, ben c'est cool, on l'embarque.
Puis en même temps, en fait, on sent que les phrases, les mots, c'est quand même une matière première assez importante. Je mets en parallèle avec un autre ouvrage que tu vas avoir au salon Nouveau Genre 6, en fait, Phrase Makeover, où ouais. tu refais des phrases, tu recomposes des phrases et avant, après. Donc...
Ouais, ben ça, c'est sûr que c'est vraiment... Tu sais, je pouvais pas fitter ces phrases-là dans les proverbes faits, mais j'aimais l'idée Phrase Makeover, puis je me suis dit, je vais faire un mini-zine avec, tu sais. Mais il est vraiment pas gros, le zine, là. Il est quoi, 6 pages? Mm-hmm. Mais, ouais, ben c'était l'idée avant, après. Au départ, c'était à cause que... Ben ça, je fais souvent ça, puis aussi, je suis traductrice, là, fait que, tu sais, j'étais habituée de comme passer de l'un à l'autre, puis des fois, il y a des choses que j'aime, tu sais, comme, mettons, avant, quand je faisais de la musique ou de la chanson, je pognais des tunes qui existaient déjà, puis j'y traduisais des tunes américaines, puis j'y traduisais, puis des fois, je changeais pour que ça soit moi, comme moi, je pensais. Fait que, tu sais, mettons, dans mon zine, Phrase Makeover, c'est les makeover, au début, t'as un extrait de Lady Gaga, de Poker Face qui dit « And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. » Oh, 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 oh. Bon, ça, mm-hmm. là. Puis à chaque fois que je l'entendais, elle me dérangeait, cette phrase-là, puis j'étais là, comment tu pourrais la changer pour que toi, tu sois d'accord avec cette phrase-là, tu sais? Puis finalement, je l'ai trouvée, là, je vous le dis pas, je laisse le soin aux auditeurs de venir acheter mon zine ou de venir checker comment je l'ai changé, la phrase, mais c'est ça, c'est juste de transformer la réalité autrement, avec quelque chose qui te plaît plus. Là.
Et qu'est-ce qui attire peut-être un peu vers l'univers des mots, vers le langage, justement, vers l'idée de jouer avec la manière dont on dit les choses, la manière dont on pourrait dire certaines choses aussi?
Moi, je pense que c'est plus une affaire de précision, puis une affaire de... C'est comme, je pense, je vois avec les mots, c'est comme prendre ton cerveau puis commencer à le masser puis à regarder, là, dire « Ah, ça, c'est drôle, mais ça pourrait être ça aussi, puis ça pourrait être ça aussi. » C'est vraiment de la masturbation mentale, là. C'est comme, c'est jouir des idées, c'est jouir des différences. C'est, regarde, c'est comme un enfant, mettons qu'il joue avec ses blocs Lego puis qu'il y a des cubes de telle grosseur, de telle couleur, puis là, il les assemble avec eux autres, puis finalement, il se désintéresse puis il va plus vers les autres. Mais c'est la même chose, c'est juste que c'est avec des mots, c'est avec des idées. T'assembles des choses qui se ressemblent, qui sont différentes. Tu regardes, c'est quoi la différence? À quel degré? Tu sais, c'est... Je sais pas, c'est...
Ça vient
d'être assez. On n'est jamais trop étiré.
et bien entendu, en fait, tes fanzines ne se limitent pas non plus à des jeux verbaux, à des proverbes, à des phrases. Un autre exemple, en fait, c'est un fanzine que tu as réalisé en collaboration avec
Raphaël Sarfati, un Français.
Et pourrais-tu nous en parler un petit peu, en fait?
Ouais.
Qu'est-ce que c'est?
C'est Super Trash Woman. Fait qu'il y en a, j'en ai juste 5 exemplaires. Fait que c'est vraiment de la bombe, là. Puis, ben c'est ça, c'est Super Trash Woman, c'est un personnage que... C'était un personnage fantasmatique, il venait souvent dans mes fantasmes. Quand j'étudiais en art, ouais, c'était surtout quand j'étudiais en art, puis justement, là, des fois, l'intellectuel me faisait chier, puis là, j'étais là, « Man, pouvez-vous arrêter de vous prendre la tête, moi qui viens de dire que j'aimais réfléchir, puis que j'aimais ça, c'est quand même paradoxal. » Mais tu sais, je trouvais souvent en art plastique, bla bla bla, ça finissait plus. Tu sais, on voit avec mes proverbes que j'abrège. Fait que Super Trash Woman, c'est comme le personnage de émotion brute, mm-hmm. qui venait tout décalisser. Tu sais, elle a une hache, elle est tout nue. Là, sa partie, il a fait un petit kit, là, finalement, elle est à moitié tout nue, là. Mais en cagoule, puis elle arrive, puis elle décalisse tout. Mais tu sais, c'est un personnage un peu destroy, qui est une émotion brute, dans le fond. C'est comme on a tout en nous différents pulsions ou différents personnages. Super Trash Woman, ce serait la pulsion de destruction, dans le fond, qui est brute, tu sais, qui va se braquer, tu sais, puis qui va faire « Bruh! » Tu sais, c'est
puis,
ça.
Puis le dessin, l'esprit, c'est vraiment, c'est garroché, c'est sketch, c'est un peu brouillon aussi. C'est un peu dans cet esprit-là, j'imagine, pas trop se prendre la tête à faire ça. Ce texte-là, ces dessins-là?
Ben là, c'est le but, c'est de s'amuser. C'est ça. Nous mm-hmm. autres, on est allés, on a sorti les tu sais, c'est des feuilles 8,5 par 11 lignées, là. On les a sorties, puis on a commencé. Puis on écrivait, mettons, lui écrivait, moi, je vais faire un livre avec toi. Moi, je rayais un livre, j'écrivais blog. On écrit, on se répond. Les gens reconnaissent son écriture, mon écriture. Les gens s'en viennent à connaître mon dessin, son dessin. Puis on se répond. Mm-hmm. Fait que tout le long, on se répond par les mots, par les dessins. Puis je raconte un peu c'est quoi mon idée de Super Trash Woman, parce que des fois, j'ai de la misère à travailler tout seul, tu sais, puis là, c'est comme lui, il faisait de la bande dessinée, puis il me stimulait, puis il s'intéressait à moi, puis il disait « OK, vas-y, raconte ton truc, tu sais ». Fait que je commence à raconter, mais au lieu d'y raconter en voix, j'y racontais en le faisant. Fait que les deux, on se répondait. Puis là, ben, ça a fini que j'ai enfin dessiné Super Trash Woman, tu sais, qui a toujours été un fantasme dans ma tête, mais que j'avais jamais dessiné, mais que je connaissais. Je savais comment qu'elle agissait, je savais qu'est-ce qu'elle aurait dit, tu sais, j'avais des idées de vidéos. Puis là, fait que c'est ça, fait que il y a deux, trois dessins là-dedans, vraiment le fun. À un moment donné, je dessine Raphaël, puis ça me fait rire au bout, le dessin que j'ai fait de lui. Puis lui, il me décide, puis il se fout de ma gueule, tu sais, puis il rit de moi. Puis moi, je ris de lui. Puis finalement, tu lis ça, puis c'est drôle. Tu sais.
Et globalement, ça montre un peu, à mon sens, ce qui fait l'attrait du fanzine, dans la mesure où c'est un médium qui est extrêmement permissif. On peut faire ce qu'on veut là-dedans, du collage, du dessin, du garrocher, du détaillé, du... Est-ce que c'est ça un peu, cette liberté-là qui t'a attiré vers ce médium-là, côté expression, côté travail?
Ben, moi, j'ai touché à vraiment plein de médiums, là, fait que la liberté, c'est sûr que c'est au cœur de mon travail, mais je t'ai attiré, j'aime beaucoup le dessin, puis j'aime beaucoup les mots. Fait que c'est sûr que le fanzine se prête, puis tu sais, je sais pas, vu que j'ai beaucoup de pratique, puis que je suis assez indépendante, puis que je suis un peu stock-up, ben ça finit que je fais les affaires dans mon coin, puis que le fanzine, c'est parfait pour moi, parce que je suis un peu stock-up, tu sais. Fait que je fais mes affaires à ma manière, tu sais. Puis c'est ça, là, je sais pas trop quoi dire.
Ça donne, en fait, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de contraintes d'autres que celles que tu t'imposes, dans le fond, dans le style, dans le développement.
Ouais, c'est ça, là. Qu'est-ce que tu as comme moyen, qu'est-ce que tu as comme...
Parce que dans le fond, un album, exemple, pour comme les proverbes, c'est vraiment l'impression, puis avec un nombre assez limité de copies aussi au bout du compte, donc c'est du travail artisanal.
Ah, totalement. Moi, aujourd'hui, j'ai fait du 9 à 4. Aujourd'hui, j'ai assemblé le fanzine. Je suis là-dedans depuis 3 jours. Je trouve ça le fun. Ça fait longtemps que j'ai rien fait en art, puis là, le Salon de vos genres me donne l'occasion de faire de quoi. Fait que là, j'ai ressorti mes phrases, j'ai commencé à jouer avec ça, à faire du tri, à choisir. Puis aujourd'hui, j'ai passé comme c'est ça, là, 4-5 heures aux copies de la capitale, à faire des photocopies, à découper, puis à assembler, puis à brocher. Puis c'est ça, ça me fait rire. Hein? Je sais pas si je réussis à faire 10$ de l'heure avec, avec toute la patente, mais ça vaut la peine, c'est le fun, j'aime ça faire ça.
L'objectif n'est pas financier.
Non, mais c'est le fun des ventes, puis c'est le fun de se dire qu'il y a du monde qui paye pour ça, puis que comme un autre livre, tu sais, il vaut moins cher, mais au point de vue du plaisir que tu as à lire, moi, je trouve que c'est l'équivalent, c'est juste souvent plus petit qu'un vrai livre.
Et si les gens veulent avoir une idée de tes phrases, justement, de ton univers verbal, il y a proverbefaible.blogspot.com,
en
ça
fait,
peut donner une idée.
Oui, exact, oui. Ouais.
Et bien entendu, ben, on invite les gens à aller te rencontrer aussi samedi et dimanche au Salon Nouveau Genre, donc à l'église Saint-Jean-Baptiste.
Ben oui.
Et voir un peu ça et jaser de ça et jaser peut-être un peu de musique aussi, puisque tu parlais d'autres disciplines, mais notamment aussi de la chanson pénible.
Ouais, ben là j'en fais plus, là, mais si vous êtes chanceux, chanterez bien Jingle Bell, si Joyeux Noël.
Véronique Gardeau-Allard, merci beaucoup.
Merci.
Et nous, on prend une courte pause musicale. Au retour, on poursuit dans l'univers BD.
Now,
Et voilà, toujours à la vie en BD, musique l'orange, avec peut-être un peu de chaleur, avec cette neige qui tombe tranquillement sur Québec. Au bout du fil, Stéphane Gravel, bonjour.
Allô, allô.
Ça va?
Oui, oui, ça va, bien sûr.
Ça va vite, mais ça va, comme on dit.
Oui, c'est ça.
Et Stéphane en fait, beau livre pour le temps des fêtes, une belle suggestion pour nous.
Ben écoute, je suis tombé sur un bouquin que j'ai trouvé extrêmement fascinant et intéressant. Il s'appelle Art ludique. C'est chez la maison d'édition Sonatine. C'est un livre de Jean-Samuel Craig et de Jean-Jacques Launier. En fin de compte, ce que c'est que ce livre-là, c'est qu'on va chercher un paquet d'illustrations et d'illustrateurs ou des dessins qu'on a déjà vus. Et on va en arrière du dessin et on explique quelle a été la démarche, qui en est l'auteur, qui est le dessinateur. Et souvent, exemple, qui a dessiné les vieux Donald Duck, qui a fait des personnages, exemple, de Lara Croft pour les jeux vidéo, pour les jeux vidéo, qui est derrière le chat du rabbin. Ceux qui connaissent la BD le savent, pour certains, dans les jeux électroniques, dans les personnages dessinés au cinéma, souvent on le sait pas. Mais il y a tout un art qu'on appelle l'art ludique, là, qui est cette espèce d'iconographie moderne-là qui est un peu l'invasion qu'on a par le monde du comic, par le monde de la bande dessinée, par le monde du dessin pour les jeux vidéo. Donc, les auteurs répertorient un paquet de ces œuvres-là et en font un répertoire qui est extrêmement fascinant et qui en fait un très beau livre, d'ailleurs.
Et comment c'est organisé à l'intérieur? Est-ce qu'on y va par auteur, par thème, par époque?
On y va par thématique et par auteur, bien sûr, veux dire, un va quasiment pas sans l'autre, là. C'est-à-dire qu'on y va par un peu par la forme de démarche, par le style de graphisme, par aussi les trucs qui sont plus de BD, plus de cinéma. Et on va plus dans un sens qui est près de l'illustration ou de l'œuvre que près d'une chronologie, là. C'est un peu comme si on se promenait un peu à travers une galerie d'art, puis qu'on voyait des dessins, puis qu'on essaie de comprendre qui l'a fait, dans quel contexte et comment. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant.
Et donc, ça devient un beau cadeau de Noël pour quelqu'un, justement, qui a envie d'explorer.
Oui, c'est un très, très beau livre. Hey, dis-moi, Raymond, est-ce qu'on a 3 secondes?
On se les permet.
Il faut lire 3 secondes. 3 secondes, oui. De Marc-Antoine Mathieu. C'est une BD dont l'histoire se passe en 3 secondes. Tout se passe dans le reflet des yeux de quelqu'un qui regarde une scène et on fait un voyage extraordinaire à travers l'espace dans un clic, 3 secondes, et c'est une BD extrêmement fascinante.
En fait, j'aurais presque envie de dire génial dans le concept et dans la manière
dont on va pouvoir. C'est génial, écoute, c'est fou, c'est débridé, c'est imaginatif, c'est créatif, c'est beau, c'est bien dessiné, c'est précis, c'est un tour de force, c'est vraiment quelque chose à... Pour les amateurs de BD, il faut vraiment passer dessus, c'est incontournable.
Et en même temps, ça c'est un autre tour de force, j'aurais envie de dire, même Stéphane, pour Marc-Antoine Mathieu. Je veux dire, on dirait que chaque album, chaque série qu'il lance, il y a toujours... En fait, il redéfinit les paradigmes de la BD ou la manière de narrer, de scénariser, les repères temporels, etc., etc. Là.
Absolument, c'est un prof, ce gars-là. Là. Tu lis une bande dessinée, puis c'est... C'est à la fois une histoire, mais à la fois une étude sur la façon de raconter les histoires en BD. Et c'est créé avec théorie, puis c'est fascinant. C'est vraiment le 3 secondes. Je sais pas si toi t'es passé à travers, mais c'est une BD qui est carrée. Chaque page a des petits dessins qui sont carrés. Il y a un rythme très très précis dans ces carrés-là, qui est un peu la représentation de un peu du temps, parce que le temps, c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose de carré.
On le recommande, en fait.
On part en fou, là.
Stéphane Gravel, merci beaucoup.
Je suis désolé du retard.
Pas de problème. Et nous, on se dit à l'année prochaine?
Ben, à l'année prochaine, bien sûr.
Donc, à très bientôt. Merci beaucoup.
OK, bye.
Bye-bye. Alors, on prend une courte pause. Au retour, c'est Beau d'Escabeau et Thomas-Louis Côté.
Le 31 décembre. Les Disques Nomades et le Grand Théâtre de Québec vous invitent à faire partie de la famille. Une soirée festive au son des artistes de la scène émergente. Isabeau et les chercheurs d'art, Thierry Coyote, Ouangu et plusieurs invités. Le service de garde est ouvert sur place. Le 31 décembre, 20h. cave climatique du Grand Théâtre de Québec. Billets sur Billettech, collaboration Studio Léman et CKRL. Pour sa prochaine activité, le Ciné-Club Spirafilm vous propose le plaisir du grand écran en famille. Une séance spéciale pour les plus jeunes le 18 décembre à 14h à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoges. Le film des crocodiles de Christian Dutheux, un film plein d'aventures à voir dès 8 ans. La séance sera précédée d'un court-métrage pour les enfants et animée d'une activité de découverte et de questionnement autour du cinéma. Invité, Pamela Bisson, cinéaste et animatrice jeunesse. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socioculturelle au Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, La Boîte à Pain, Le Bal du Lézard et CKRL.
CKRL 89. Cultive tes goûts.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
Toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et on le dit en entrée de jeu, on va le redire cette fin de semaine, Salon Nouveau Genre 6 à l'église Saint-Jean-Baptiste de 11h à 20h, donc le 10 et le 11. Une centaine de créateurs en art visuel, en métier d'art, en micro-édition, en musique, en design, en mode. C'est un événement qui est présenté dans le cadre plus large de Relève en Capitale. Et c'est une belle occasion d'aller découvrir, d'aller rencontrer différents créateurs. Et on a décidé ce soir de vous en faire découvrir quelques-uns. Et donc, notre deuxième rencontre autour de ça, c'est avec l'équipe de Sebo d'Escabeau. On rencontre les deux directrices, deux des directrices de ce collectif d'édition. Marie-Pierre April, bonjour.
Bonjour.
Et Marie-André Godin, bonjour.
Bonjour.
Alors, et devant moi, en fait, j'ai une belle pile de fanzines avec, en fait, différents types de papiers, différents types de formats, des collages, du dessin. Qu'est-ce que c'est un peu Sebo d'Escabeau?
Ben dans le fond, au départ, on était un collectif, Étienne, Bayarjon, Marie-André et moi. Puis un jour, Marie-André est arrivée chez moi. Elle avait eu une relation amoureuse très décevante. Puis pour se défouler, elle a décidé de faire un fanzine. Puis de là est partie l'idée de en faire plusieurs, de demander à nos amis d'en faire et de demander aux amis des amis d'en faire. Puis du coup, ben, on a décidé de faire une micro maison d'édition. Nous, on est comme en contact avec des endroits de distribution. Puis nous, dans le fond, nos amis... des gens qu'on connaît ou pas sont comme venus nous porter des fanzines qui prennent plusieurs formes.
Oui, c'est ça. En fait, au même moment où on a commencé à faire les fanzines, on avait des amis qui organisaient des événements. Souvent, c'est des événements de performance ou des événements où il y avait de la vidéo ou des trucs comme ça. Un peu des événements parallèles aussi en art visuel. Puis on a des amis qui ont décidé, avec ces événements-là, de faire des comptes rendus des événements, des petites publications, un peu comme des catalogues. Là. Fait que là, on s'est dit, ah, ben c'est cool, on va faire les fanzines, les catalogues. Puis aussi, ben comme on a beaucoup d'amis qui sont en art visuel aussi, on a aussi une panoplie de petits livres faits main, tout uniques.
Oui, ben enfin, il y en a carrément où le lien entre les pages, c'est du tissu, il y a des enveloppes là-dedans, c'est avec des versos d'enveloppes. Donc, on joue un peu avec le matériel de base, avec le type de papier, ça devient... On parle plus d'un objet d'art, pratiquement, dans certains cas. Là,
oui, mais dans le fond, il y a certaines publications qui ressemblent quand même à des livres d'artistes. Il y en a d'autres qui sont photocopiés, qui ont un aspect un peu plus cheap. Mais c'est pas cheap pour autant, là. C'est souvent un peu humoristique ou des collages, des choses comme ça, mais il y en a qui ont beaucoup de travail, il y en a qui font des gravures, qui ont beaucoup d'heures de travail derrière ça.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, les fanzines de Sebo d'Escabeau, ils peuvent prendre des fois 3 minutes ou 3 ans à faire. Ça dépend toujours des cas, mais...
Et donc, c'est la ligne directrice un peu de tout ça, c'est essentiellement les gens qui les font. Vous êtes un peu sur un mode coopératif, dans le fond, de création d'édition, si on peut dire.
Oui, ben ça dépend. Il y a certains projets qui ont été vraiment des collaborations, là, c'est-à-dire qu'on était 5-6 à mettre la main à la pâte, autant pour ce qui est de la rédaction qu'après la production puis de la distribution. Mais il y a certains projets qui sont comme de A à Z, réalisés par un artiste, puis nous, on fait juste comme le recevoir, puis dire, OK, ben qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? On peut aller voir telle personne pour que ça soit diffusé, que ce soit rendu public, que les gens aient accès à ces œuvres-là, qui sont des œuvres uniques souvent, là.
Et justement, en fait, je parle depuis tout à l'heure de ma pile, mais est-ce qu'on pourrait détailler peut-être quelques projets à titre d'exemple, justement, pour montrer le travail de Cebo Escabeau et de vos collaborateurs?
Bien, derrière moi, Cebo Escabeau, c'est associé avec la Réplique Franche, qui est un collectif aussi d'art visuel à Québec. Puis, ils ont participé, on a tous participé ensemble au projet Peu mieux faire, qui a eu lieu à l'œil de poisson, bien, qui est encore en cours présentement à l'œil de poisson. À la galerie L'œil de poisson, à Méduse. Et puis, ça, c'est une des collaborations, là. Il y a eu, c'était le thème « Tous les petits cahiers Canada » que les artistes devaient s'approprier, puis ils devaient faire une œuvre d'art avec ça. Donc, Cebo Escabeau et la Réplique Franche se sont associés pour faire des cahiers Canada. Mais sinon, je sais pas, on a une artiste qui travaille beaucoup avec nous, qui est super impliquée dans Cebo Escabeau, qui s'appelle Marie-Claude Gendron, qui est allée en voyage au Vietnam cet été, puis elle a ramené un paquet de petits trucs, puis elle a fait c'est pas des journaux de voyage, c'est sûr, mais c'est des petits livres d'artistes avec des trucs qu'elle a glanés un peu là-bas, sinon...
En fait, c'est vraiment, c'est la variété, je veux dire. En fait, d'un livre à l'autre, il n'y a pas, au-delà du logo ou du nom, si on peut dire, mais il n'y a pas d'éléments visuels qui se répètent de l'un à l'autre. Là,
non, il n'y a pas d'unité là, de style là, ou de propos dans Cebo Escabeau. C'est vraiment comme très ouvert, puis chacun des artistes est appelé à s'exprimer là, autant qu'il veut. Il y a des choses même qui sont quand même assez crues. T'as pu remarquer là, certains titres. Là, t'as même pas de cheval esti, puis tu tripes sur ton épée. Ça, c'est un peu cru, c'est un peu plus dans l'humour, puis il y a un peu plus dans le défoulement. Il y a d'autres choses qui vont être plus poétiques. Donc, c'est ça, c'est très varié là, comme publication. Il n'y a pas de direction là, qu'on impose aux artistes.
Comment on voit un peu évoluer ça? Est-ce que c'est vraiment se garder justement un outil collectif, coopératif d'édition de fanzine, ou est-ce qu'on le voit évoluer d'une manière ou d'une autre?
Eh bien, je sais pas trop quoi répondre à cette question-là, finalement. Je pense que c'est très, très ouvert. T'sais, le but, c'était de se donner une espèce de plateforme de diffusion pour les trucs. Moi, personnellement, quand je fais des fanzines, ça n'a absolument rien à voir avec l'art que je vais faire habituellement. T'sais, c'est vraiment une espèce de porte de liberté où j'ai aucun... je sais pas, je ferai pas... Je vais pouvoir faire ce que je veux si je fais un fanzine. Puis j'ai envie que tout le monde qui vienne à Cebo Escabeau faire des fanzines puisse se sentir comme ça, tu sais. Il y a pas grand-chose là, qu'on cautionnera pas. Puis oui, je pense qu'on a envie que ça demeure collectif puis que ça demeure ouvert à tout le monde, tu sais.
C'est ce qui fait l'intérêt au bout du compte du fanzine, autant pour ceux qui le font que pour ceux qui le reçoivent. Je veux dire, c'est la totale liberté qu'il y a en dehors justement d'un mode de subvention, d'un mode d'édition traditionnel. Là, c'est tout est possible, le matériel, le contenu, etc.
Oui, tout à fait. Oui.
Et en même temps, est-ce qu'on a l'impression que c'est un univers qui est en train de prendre de plus en plus de place? Je veux dire, il y a Exposine à Montréal, il y a Nouveaux Gens à Québec. Vous êtes quand même plusieurs aussi à faire du fanzine dans la province. Je veux dire, c'est un mode et au-delà.
Oui, mais je pense que c'est pour ça. Puis je remarque, je pense que les gens ont de plus en plus envie de faire les choses par eux-mêmes. Puis je le remarque aussi en art. Tu sais, je parlais tout à l'heure des publications qui font des comptes rendus des événements, mais c'est tous des événements qui sont autogérés. Les gens ont envie de faire des choses, puis ils n'ont plus envie d'attendre que quelqu'un d'autre cautionne, puis dise « Ah oui, OK, c'est correct de faire ça. On voit la valeur de ton travail. » Tu sais, moi, je me dis, si moi, je trouve ça intéressant, bien, il y a des chances que d'autres mondes trouvent ça intéressant. Puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est... le climat ambiant ou je sais pas trop, qui fait que les gens ont de plus en plus envie de se regrouper puis de faire des trucs par eux-mêmes, tu sais.
Et quand on a une idée, qu'est-ce qui fait justement que, exemple, dans vos fanzines à vous ou dans ceux de vos collaborateurs, qu'est-ce qui fait justement qu'il y a une idée, qu'il y a un concept qui s'applique bien aux fanzines? Est-ce qu'on pense à un concept de fanzine ou des fois c'est une idée d'œuvre qu'on a ou de réflexion côté artistique et qu'on décide d'amener dans ce format-là?
Mais écoute, je pense que ça peut prendre tellement de fond. Ça peut prendre une petite graine d'idée, là, comme, je veux dire, moi, je pense surtout à celui que Marie-André a fait. C'était une défaite amoureuse. C'était quelque chose de complètement anodin, puis que t'as pas nécessairement envie de partager avec tout le monde. Sauf que là, dans ce cas-là, elle a décidé que oui, puis qu'elle allait un peu exorciser la chose en faisant un fanzine. Mais ça peut être aussi, justement, des éléments de la pratique artistique d'un artiste, comme je pense à Marc-Claude Gendron. Ça ressemble, les fanzines qu'elle fait, ça ressemble pas mal à ce qu'elle fait aussi en installation, en performance.
Ouais, moi, par exemple, souvent, à part les ruptures amoureuses, je me sers aussi du matériel que j'aime, que je trouve particulièrement beau. Par exemple, j'ai un petit fanzine sur le ski qui s'en vient, que vous viendrez voir au salon. Et puis, j'avais des vieilles photos de ski, des vieilles photos, je suis pas sûre que j'étais au monde quand ces photos-là ont été prises. Et puis, je les trouvais très belles, mais j'ai pas réussi à faire un projet d'art à l'école, mettons, ou je sais pas, avec ça. Fait que, tu sais, j'ai pas envie de pas me servir de ce matériel-là, parce que je trouve qu'il vaut quelque chose. Finalement, souvent, dans ce temps-là, ça se ramasse dans les fanzines, ou...
Donc, ouais. Ça devient en fait une base, un élément de départ ou des fois un projet entier justement qui atteint son dénouement. Et parallèlement, il y en a d'autres aussi où dans lesquels on en profite pour faire des résumés d'événements. En fait, on pense à des publications autour de soirées de performance. Donc, ça devient aussi un médium d'auto-édition à part entière dans ces cas-là.
Ouais.
Et... Donc, je rappelle aux gens, on peut vous voir donc au Salon Nouveau Genre 6 cette fin de semaine. Beaucoup de parutions déjà aussi. Vous allez avoir quand même pas mal de matériel samedi-dimanche.
Bien, on l'espère. Hein? Là, il reste quelques heures pour finir tous nos fanzines qui sont enclenchées. Mais oui, je pense que oui. Je pense qu'on a du beau matériel puis que les gens vont l'apprécier.
Et ça veut dire que pour vous, ça va être un peu le marathon jusqu'à demain matin.
J'ai commencé ce matin puis ça va durer jusqu'à demain 11h pour être prêt et prête.
Et donc, ça devient intéressant des initiatives comme ça pour des créateurs comme vous, dans le fond, de dire, OK, on a l'échéance, on a une table, on a du monde, on va voir des gens, donc faut avoir du nouveau stock.
Ben oui, parce que là, on se dit toujours, comme cet été, moi, je me suis dit, avant l'été, je me disais, je vais faire des fanzines cet été. Mais évidemment, la vie fait en sorte que les fanzines, tu les fais un petit peu la semaine avant le Salon Nouveau Genre. Mais ouais.
Mais voilà, donc c'est des idées qui ont mûri et qui atteignent leur maturité à travers ce médium-là. Si on veut avoir un peu plus d'informations sur ces beaux escabeaux, c'est au www.escabeau-édition.com. Et Marie-Pierre April, Marie-André Godin, merci à vous deux.
Merci à toi.
Et on se dit à ce week-end.
Oui.
Alors nous, on repart en musique et au retour, on jase Tintin avec Thomas-Louis Côté. Extrait, dernier extrait de la formation L'Orange tiré de l'album Old School, album disponible d'ailleurs sur le site Bandcamp. On mettra le lien sur le portail web de l'émission, donc lavieenbd.wordpress.com. Et le petit extrait qu'on vient d'entendre, c'est la pièce de Morning. Et ben, là-dessus, on a le plaisir d'accueillir Thomas-Louis Côté. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Thomas, bien entendu, collaborateur ici à l'émission et collaborateur qui a vu Tintin, qui va nous parler de Tintin parce que c'est la fièvre Tintin, là, présentement.
Eh bien oui, j'ai eu la chance samedi dernier d'aller à l'avant-première de Tintin, donc de voir une semaine avant tout le monde le film événement de la période des fêtes, du moins au Québec. Et c'est ça, c'était vraiment un réel plaisir d'aller voir ce film-là, parce que j'avais beaucoup d'attentes. Je veux dire, Tintin est un univers qu'on connaît depuis qu'on est jeune ici au Québec.
Et, on a grandi avec lui, là.
Ben oui, c'est ça. C'est bon, mes parents m'ont acheté tous les Tintins. J'imagine que les tiens ont fait la même chose. C'était vraiment une lecture obligatoire quasiment pour nous, pour la jeunesse. Ce qui est moins le cas aujourd'hui, chez les jeunes aujourd'hui. Mais pour le film, je veux dire, avoir les critiques qu'il y avait eu en France, qui étaient quand même excellentes en France et en Belgique, mes attentes étaient assez grandes quand même, puis j'ai pas été déçu.
Non, mais en fait, c'est parce que la technique, déjà, au niveau de l'animation, on se rend compte qu'on est rendu assez loin là, dans le côté réaliste, animé. On est à des années-lumière aussi du look des films de Tintin qui ont été faits dans les années 70.
Oui, bien, ils se sont donné vraiment une liberté quant à l'image du personnage. Ils ont gardé des personnages en général. Je veux dire, on reconnaît au premier coup d'œil les personnages d'Hergé, mais ils ont adapté à l'animation en 3D et ils font plein de clins d'œil justement au début, surtout aux personnages dessinés par Hergé, mais au début c'est un peu déstabilisant, je dirais, mais on s'y fait très vite et on embarque très rapidement dans l'histoire qui est bourrée d'action, là.
Et c'est peut-être un peu la grande question, un peu avec comme avec n'importe quelle adaptation d'un roman ou d'un film ou d'une série de BD. Dans ce cas-ci, évidemment, là, un bel album de Tintin, c'est à peu près un 45 minutes d'aventure. Donc, on a mélangé un peu trois albums.
Oui, mais c'est ça. Ils ont mélangé trois albums qui sont le duo de Secret de la Licorne, Trésor de la Racame le Rouge, avec le Crabe aux Pinces d'Or. Donc, la première rencontre avec le capitaine Haddock et... C'est surprenant de voir comment ils ont réussi à mélanger tout ça. C'est pas nécessairement tout le trésor de Racame le Rouge qui est là, mais ça nous amène à une fin ouverte justement pour la suite qui va reprendre un peu au milieu de l'album du trésor de Racame le Rouge. Mais donc ils ont vraiment collé plein d'éléments, ils ont ramené plein de personnages, ils en ont enlevé et ils ont recréé une intrigue qui fonctionne. Donc, c'est vraiment, je trouve ça super bon de voir la liberté qu'ils ont pris par rapport aux histoires et de faire quelque chose qui est quand même solide au niveau de l'histoire.
Parce qu'en même temps, le stress qu'on peut avoir, c'est que c'est un film aussi qui est destiné d'abord au public américain, même si, bon, il a été lancé avant tout en France, en Europe, au Québec, parce que c'est là que le marché, comme on le disait, des gens qui connaissent vraiment Tintin, justement, se trouve. Parce que le public américain, connaissent pas Tintin. C'est pas un héros qui est si connu que ça.
C'est pas si connu que ça, mais c'est connu quand même un peu. Je veux dire, c'est des albums qui ont été distribués en anglais aux États-Unis à partir des années 60. Donc, c'est quand même quelque chose qui a été diffusé. Mais la production américaine est moins basée sur... la consommation de bande dessinée aux États-Unis est quand même pas très grande. Puis c'est plutôt le comics américain qui a pris toute la place. Donc, Tintin, c'est certain, a son public aux États-Unis. Mais le film a été fait pour satisfaire le public de gens qui connaissent Tintin et aussi de créer des nouveaux adeptes de ces personnages-là. Donc, j'ai l'impression, moi, que ça va faire un peu le même phénomène que pour les Schtroumpfs, où tu te ramasses à avoir des films qui sont sortis, des dessins animés qui sortent à partir des personnages, puis il y a une majorité du public aux États-Unis qui doivent même pas savoir que les albums existent, ni que c'est une création qui est belge. Donc, pour Tintin, j'ai l'impression que ça va être un peu la même chose, où le film devrait être un succès, avec Spielberg et Jackson derrière les commandes. Il devrait y avoir beaucoup de monde qui vont le voir. Et je le répète, c'est un très bon film d'action. Donc, pour un public même qui ne connaît pas Tintin, ils vont l'apprécier. Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils vont tranquillement oublier le fait que c'est un personnage belge qui est et la ligne claire et tout ça, ce qui eux feront, les gens feront pas nécessairement la référence à ça. Mais quand même, le premier film a été assez respectueux là-dessus. Au départ, il y a vraiment un petit clin d'œil qui est fait à Hergé et au personnage qu'il a créé dans le trait qu'il a créé aussi, là. Donc,
ça montre un peu que les gens qui ont fait l'adaptation aiment la série aussi. Je veux dire, Spielberg, ça fait longtemps qu'il y a les droits, ça fait longtemps qu'il veut le faire.
Ça fait 30 ans qu'il y a les droits. Ça date de la sortie du premier Indiana Jones. Donc, et c'est une série que lui connaissait pas, mais qu'il y a des gens qui lui ont parlé, et il a été découvrir la série, j'imagine un peu la même chose que pour Jackson, Peter Jackson, où, je veux dire, c'est des gens qui connaissaient l'univers de Tintin, qui l'appréciaient, donc ils n'ont pas voulu non plus dénaturer tant que ça. Il faut dire aussi qu'ils ont dû être vraiment encadré par la fondation Moulin-Sart ou le studio de Hergé maintenant. Là,
qui parce est... que, donc on ne fait pas ce qu'on veut avec Tintin.
Absolument pas. Depuis la mort de Hergé, la veuve d'Hergé s'est remariée avec un homme d'affaires anglais qui a repris la marque, si on veut, de Tintin en main et qui en a fait une œuvre d'art et un objet de luxe à un certain niveau. Parce que tous les produits dérivés qui sortent de Tintin, tout ça était quand même assez inaccessible pour les jeunes. C'était vraiment dédié à un public de gens qui connaissaient Tintin, mais plus âgés. Pour avoir visité le musée Hergé à Louvain-la-Neuve, c'est vraiment présenté comme Hergé l'artiste et non l'auteur. Donc, c'est vraiment un artiste au même titre que Picasso est un artiste. Il y a des prétentions par rapport à ça qui font qu'ils ont un contrôle incroyable sur le nom, le branding, si on veut, de Tintin. Tu ne peux pas diffuser d'image de Tintin comme tu veux. Donc, j'imagine que pour un film, même si c'est avec des grands noms comme Spielberg et Jackson, ils ont dû quand même encadrer et approuver à peu près toutes les étapes pour être certain que ça garde leur focus.
Et que ça garde le respect de la série, du personnage, et que dans le fond, le film vienne pas dénaturer le branding Tintin qui a été développé depuis très longtemps, finalement.
Mais on voit déjà avec les... Parce qu'un film à l'américaine implique aussi une mise en marché à l'américaine. C'est-à-dire que en montant à Montréal, en fin de semaine dernière, à la station-service, il y avait des petits toutous Tintin qui étaient à l'image des nouveaux personnages. C'est-à-dire ils créent un nouvel univers de produits dérivés beaucoup moins chers, vraiment moins chers. Et ils vont aller chercher des jeunes avec ça, et justement qu'ils vont avoir le nouveau Tintin comme étant l'image.
Et ce qui fait aussi parallèlement, et on le voit apparaître en librairie, notamment j'imagine aussi beaucoup du côté des librairies anglophones, il y a toute une réédition des albums de Tintin qui est faite pour le marché anglophone.
L'album du film, l'album les duos de Du secret de la licorne et du trésor de Rakamlaouche, ils ont vraiment une mise en marché très forte et on le voit dans les ventes par rapport à Tintin, où il y a une recrudescence des ventes incroyable depuis l'annonce de la sortie du film et depuis la sortie du film en France. Parce qu'en France et en Belgique, le film est quand même sorti au mois d'octobre, donc 22 octobre, je crois, là. Donc, les ventes explosent présentement.
Et donc, on imagine, en fait, pour un branding aussi contrôlé, ça devient quand même un bon investissement artistique, entre guillemets, parce que ça risque de relancer la série qui faisait parler d'elle pour toutes les mauvaises raisons dans les dernières années, pour le côté passéiste, raciste même de certains opus. On n'en parlait pas pour les bonnes choses, là.
Exactement. Mais j'ai l'impression qu'avec les films, ils n'iront pas retoucher à certains albums, comme le Tintin au Congo, qui est l'album controversé de Hergé, ou Tintin chez les Soviets, qu'il l'a été aussi à une époque, mais ça va vraiment être, ils vont se concentrer, ils sont supposés faire 3 films, donc j'ai l'impression qu'ils vont traiter peut-être 8 ou 9 albums, assurément les diptyques, donc qui sont les boules de cristal et dans le soleil, et peut-être même on a marché sur la lune, donc ces séries-là, plutôt que 7 de Tokar et tout ça, parce qu'on le voit même dans le film au début, une des choses qui m'a surpris, c'est qu'au début c'est vraiment un journaliste, donc on voit des images d'articles et de choses qu'il a fait, ce qu'on voit jamais dans les albums. Donc, et l'idée du reportage et tout ça revient très régulièrement, ce qu'on n'a pas dans les albums. Mais donc, on voit déjà quasiment en partant les albums qui vont être exclus de par les images qui sont montrées sur les articles qu'il a fait, les choses qu'il a retrouvées et tout, là. Donc, mais j'ai vraiment hâte de voir, parce que comme je disais, ça finit sur une fin ouverte. Ça va s'en aller vers encore la recherche de la licorne, mais j'ai...
Il faut avoir un certain culot pour le finir, un premier film comme ça, fin ouverte, de dire, ben, d'emblée, regardez, on va en faire un autre.
Je pense qu'ils sont confiés à l'investissement qu'ils ont mis dans ce film-là, probablement la passion aussi des gens qui ont fait le scénario et les gens derrière l'animation, parce que l'animation est vraiment hallucinante. Pour un film, moi, je suis pas un fan nécessairement de films d'animation, il y a un réalisme dans ça qui donne l'impression qu'à un certain moment donné, ils sont obligés de mettre des visages un peu atypiques, vraiment cartoon, pour garder le côté animation. Mm-hmm. Parce que dans certains gestes, dans les mains, les décors et tout ça, sont capables d'un réalisme qui est vraiment saisissant.
Et Thomas-Louis Côté, en terminant, donc est-ce qu'on le recommande? Est-ce que...
Absolument. Oui. Moi, c'est un film que je recommande à toute la famille, mais comme un bon divertissement. C'est certain que les fans finis de Tintin vont trouver des choses à redire, absolument. Mais faut passer à une autre étape. Je veux dire, Tintin n'est plus ce qu'il était et ils ont réussi avec ce film-là à l'amener ailleurs.
Alors ben voilà, donc ça sort en salle. Je pense que c'est sorti hier.
Ça sortait aujourd'hui. Ouais.
Alors ben on y va sans crainte. Et on pourra réécouter la critique et le commentaire de Thomas-Louis Côté après l'avoir vu en podcast pour comparer nos opinions avoir visionné.
Mettez vos commentaires sur le site de La Vie en BD. Je serais intéressé de voir un peu vos réactions par rapport à ce film-là.
Alors ben voilà, l'invitation est lancée. Thomas-Louis Côté, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et nous, on se dit à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Voilà. On est déjà rendu là. Et c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine de La Vie en BD. La semaine prochaine, avec nous, il y aura notamment Paul Leroux et Michel Hellman. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Passez une excellente fin de journée sur les ondes du 89.1 CKRL. Dans quelques instants, l'équipe de 100% Dynamite.